à tous et bienvenue à ce 59e podcast Elbakin.net. Et on est uniquement entre mâles aujourd'hui. Wouhou!
Ouais, des vrais, des poilus!
Donc avec nous aujourd'hui Akalabes.
Salut, gros!
Gilosen.
Bonjour à tous!
Et Giggs. Voilà, on est trois, effectif réduit, mais de qualité.
Tout à fait.
C'est
tout
la crème de la crème.
La crème de la crème, effectivement. On commence par les news. Gilo, on t'écoute.
Oui, alors quelques petites actualités potentiellement intéressantes qui auraient éventuellement pu vous échapper. Alors, on va commencer avec les nominations du prix Elbakin.net 2016, donc la 7e édition de notre prix littéraire. Voilà, pour le détail de tous les nommés, je vous renvoie à la news correspondante sur le site. Comme d'habitude, les gagnants devraient être dévoilés autour du début du mois de septembre.
Ok, ok. La carrière de Warcraft au cinéma, ça se passe comment ?
Ça se passe malgré tout plutôt pas mal, même si le film a, on va dire, le film de Duncan Jones n'a pas rencontré son public aux États-Unis. On peut dire qu'il va finir sa carrière assez bas, mais notamment grâce à un très gros démarrage en Chine, sans jeu de mots. Le film est déjà devenu le plus gros succès de tous les temps pour une adaptation de jeu vidéo au cinéma. Après, ça veut pas forcément dire grand chose.
Donc c'est le plus gros succès.
A priori, il devrait rentrer dans ses frais.
Mais il est déjà rentré dans ses frais, non ?
Potentiellement, une suite est toujours envisageable.
Il était pas déjà rentré dans ses frais ?
Bah, pas exactement si on tient compte du budget promotion à ne pas oublier. Ouais. Et du fait que, par exemple, un film en Chine, le producteur américain ne touche pas 100% des bénéfices qu'il faut partager avec le distributeur local, etc.
Ok, d'accord. La Chine va lancer un nouveau prix SF Fantasy, c'est bien ça ?
Oui, alors ça, c'est un peu passé inaperçu, mais j'avais trouvé l'info amusante si on imagine la même chose en France, puisque là, en gros, c'est l'État chinois qui, pour promouvoir la science-fiction et la fantasy, va créer un nouveau prix littéraire. Donc là, j'imaginais la même chose en France, où le gouvernement décide de créer un prix pour la SF et la fantasy pour contribuer à son rayonnement. Donc j'avoue que ça m'a fait sourire. Après, ça permettra aussi peut-être malgré tout de mieux connaître et de mieux lancer certains auteurs chinois qu'on ne connaît pas en Occident.
Effectivement.
Oui, c'est ça. Si ça peut nous faciliter la connaissance de ce type d'auteurs qui finalement sont assez confidentiels de ce côté-ci du monde. Hein. Donc ça, c'est assez sympa, moi, je trouve.
Bon.
Ah oui, non, mais tout à fait.
Bon, après, c'est l'État chinois qui le lance. Hein, donc on aura quand même un certain contrôle sur les œuvres publiées.
Ouais, ils n'auront pas le droit d'avoir Google.
Bah, il y a un peu de ça. C'est la fin des news. On rentre dans le débat sur le sable aujourd'hui. Les livres à lire au bord de la plage, c'est le thème de ce 59e podcast. Quel livre lire en vacances ? Ça tombe bien, on s'en approche. On entre donc dans la section des livres thématiques. Qui dit plage dit sable, qui dit sable dit désert. On va commencer par les œuvres qui se passent dans le désert. Et on n'en a pas trouvé beaucoup, il y en a quand même quelques-unes.
Comme qui dirait, c'est un peu le désert, quoi.
C'est ça, première blague. On y va. Donc, est-ce que vous avez des références ? Hormis Akalabes.
En effet, il n'y a pas beaucoup de livres qui se passent entièrement dans le désert. Bon, forcément, la première référence qui nous vient à l'esprit, c'est Dune.
Ouais.
Mais à part ça,
un peu SF quand même. Hein.
Un peu SF. Bon, ça c'est encore un grand débat.
Ça reste un débat.
Les Bene Gesserit restent relativement en fantasy, mais bon. Donc voilà, à part Dune, finalement, en cherchant un peu, on trouve beaucoup de livres dont une partie se passe dans le désert et assez peu de livres entièrement dédiés au désert. Donc est-ce que déjà c'est parce que on lit finalement beaucoup de fantasy européenne, ouais. Puisque finalement j'imagine que la fantasy africaine se passera peut-être plus dans des endroits où il fait chaud.
Ouais.
Donc nous, ça reste du Medfant, quoi.
Ouais. Donc avec moins de végétation.
Voilà. Ensuite, on a quand même un certain nombre d'exemples assez marquants. On a un de ceux qui m'est venu à l'esprit, qui m'avait quoi, une partie dans le désert qui m'avait vraiment marqué. C'était le tome 3 de la Compagnie Noire, hein, donc la Rose Blanche, où bah, voilà, là il y a toute une partie dans le désert, quoi. Le livre se passe à peu près entièrement dans le désert, où les rebelles se battent contre l'Empire. Donc tout rapport avec des faits existants autre part serait parfaitement fortuit. et voilà, la base secrète des rebelles de la Rose Blanche est dans un désert. Et ça apporte pas mal de choses. Donc bon, il y a toute la notion de ressources, de froid, de chaud, de comment survivre dans le désert. Mais il y a toute une faune aussi qui est vachement intéressante, en particulier très marquant les fameuses baleines volantes.
Ouais. Il y a des vautours parlants, il me semble, hein.
Je crois aussi, ouais, il y a un certain nombre de trucs. Il y a un arbre, forcément, un arbre magique
Ouais, qui enferme un dieu
qui enferme un dieu.
hyper mortel dont on voit juste la grosse main.
Exactement, donc
Yeah.
c'est... Alors, le désert, là... Est-ce que ça apporte quelque chose en tant que chaleur, etc.? Je sais pas. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu voilà, quelque chose où la température était oppressante ou quoi que ce soit. Mais plus pour la faune du coin.
Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Pour moi, déjà, c'est un des meilleurs tomes de la Compagnie Noire, très clairement. Il est. Oui, déjà, le gros point fort, effectivement, de ce désert, c'est la faune. Pour le coup, ça fait pas du tout vacances, hein, parce qu'ils sont
Non.
pas du tout en vacances. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y a une inquiétude qui est latente, qui est enfin, récurrente quand on parle du désert, c'est la gestion des ressources, de l'eau, des vivres, ce genre de choses, qui est plutôt bien mise en avant sans être lourde, parce que ça peut rapidement être desservir le récit et le rendre un peu chiant. Moi, je sais que généralement les parties qui se passent dans le désert, j'ai pas lu de livre spécifiquement sur le désert, mais ce qui se passe dans le désert me fait toujours horriblement chier, ouais, je vais te dire. Non, non, vraiment, parce que j'ai toujours l'impression qu'il se passe pas grand-chose, que j'ai rien à imaginer en fait. Le désert, moi, ça me. Voilà, c'est du sable, c'est quelque chose d'aride, et puis bah, y a personne, ou parfois il y a un oasis, il y a trois personnes, c'est tout.
Alors, tu viens de dire quand même que c'était le meilleur livre de la Compagnie Noire et qu'ensuite ça se passe dans le
Oui,
désert,
mais
ça te fait chier.
parce que tout le monde n'est pas Cook et tout le monde ne peut pas faire les choses aussi bien que lui. Il y a quand même des personnages qui sont passionnants. Bah déjà la Rose Blanche, qui sans être un personnage principal, sans parler, arrive à en fait à avoir une vraie présence à travers les écrits de Toubib. Après, tout se passe pas non plus dans le désert. Ils font quand même des incartades dans d'autres cités. À la fin, ça se passe dans les fameux tumulus. Non, oui, ça reste à la fois le meilleur tome un des meilleurs tomes de la Compagnie Noire, mais sorti de là, j'ai pas vu grand-chose se passer dans le désert où je me suis dit waouh, génial. Gilo.
Oui, alors moi pour le avec le désert pour cadre, j'aurais peut-être deux tendances à dégager. Effectivement, peut-être ça sert souvent de cadre pour des campagnes militaires, on va dire. Bah, moi je me rappelle, bon, on va dire que je l'ai traduit, mais Des mille noms de Django Wexler, où en gros bah, le premier tome, et justement c'est pas le cas pour les suivants, mais le premier tome se passe exclusivement dans le désert, à
Ouais.
peu de choses près, et il se base en grande partie sur la campagne de Napoléon en Égypte. Donc on est vraiment là encore dans une exploitation militaire, on va dire, bah, du cadre désertique, avec effectivement la gestion, bah, de ne serait-ce que de l'eau, des vivres et tout ça. Et puis peut-être aussi un côté plus merveilleux. Bah, là je pense bah, évidemment à Aladdin, aux mille et une nuits, où là on retrouve
Ouais.
le désert peut-être plus poétique et plus... Bah, objet de mystère et de mirage,
Bien
effectivement.
entendu.
Donc, je dégagerai un peu ces deux tendances.
Alors, ouais, c'est marrant. Moi, j'ai finalement, à part justement dans les mille et une nuits, je trouve que c'est quelque chose qui est finalement assez peu exploité, ce mystère, ce désert mystérieux et plein de magie justement qu'on peut trouver dans Aladdin ou dans les mille et une nuits. Je trouve qu'il y a souvent plutôt donc soit la campagne militaire, soit vraiment la traversée du désert, quoi. Il faut aller d'un endroit à un autre. Et c'est dur.
Voilà,
Et
c'est
là, il y a deux, quoi. Moi, j'ai deux exemples, bon, qu'on cite relativement souvent, donc je vais faire vite. Il y a dans le deuxième tome du Trône de Fer, il y a Daenerys et ce qui reste de son
de son
Khalasar
Khalasar.
qui traverse un désert. Et moi, je trouve que c'est un passage assez marquant parce que tu sens que bah ils
Ils
en
en
chient,
chient.
quoi. Ils en chient vraiment. Et je pense que c'est quelque part la première épreuve de la Daenerys
La nouvelle,
Khaleesi, quoi,
ouais.
de la Daenerys post-dragon. Et je trouve que c'est un passage assez marquant. L'autre, je vais en parler encore moins parce que ça se passe dans le dernier tome du livre malaséen où bah, il y a un passage dans le désert qui est très marquant également. Donc je vais pas en dire plus.
Le dernier tome.
Le dernier tome.
Mais il y en a de toute façon dans le tome 2 avec alors là il va falloir que tu rafraîchisses ma mémoire Aka. Ce qui est intéressant dans les portes de la Maison des Morts, donc c'est encore un livre qui est traduit en français, donc celui-là vous pouvez y aller. Il y a tout un passage avec la rébellion
Ouais.
et notamment la tempête de sable de la déesse
Chaïk.
Shaik, voilà. Donc la colère qui est prophétisée et qui est censée s'abattre sur l'Empire. Voilà. Parce qu'on a un empire oppresseur, hein,
L'Empire malaséen,
l'Empire
donc.
malaséen, et on a du coup les peuples rebelles opprimés qui du coup se retrouvent derrière cette déesse, Shaik, dont finalement ils savent pas grand-chose, qui active une tornade géante de sable, qui est l'annonce en fait d'une sorte d'apocalypse. Voilà, moi je pensais à ça. Gilo!
Oui, parce que bien sûr, il fallait que la tornade soit géante.
Ah ouais, non
Bah
mais
oui, sinon c'est pas drôle, hein,
la
c'est
tornade est
du
géante,
malaisien, hein,
la
donc
déesse est hyper en colère. Ah ouais, non, c'est forcément très très épique.
Et en fait, je trouve qu'il y a encore un autre point qui est assez important dans le désert, dans les livres de fantasy, c'est les peuplades, finalement. Parfois, on ne va pas dans le désert, on n'assiste pas, ou alors relativement peu au désert. Par contre, on côtoie les peuplades du désert. Donc, je pense en particulier aux Zaïel de la Roue du Temps, qu'on côtoie pendant à peu près toute la série, alors qu'on n'a qu'un tome qui se passe vraiment, où les personnages principaux vont vraiment dans ce désert. Et là, donc, il y a ces peuplades et cette culture qui va avec la vie dure du désert. Donc, comment ressentent les peuplades du désert, sont ressenties par les autres et vice-versa, quoi. Les différences de culture, la civilisation, donc nomade, plus pour le cas des Aiel, complètement basée sur le combat, sur la survie finalement. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi de voir cette partie du désert complètement humaine, quoi, le côté humain du désert. Hein.
Ben c'est marrant ce que tu dis parce que souvent, enfin, on voit vraiment en fait l'utilisation hyper différente de certains auteurs. Là, tu me dis, voilà, les Aiel avec Robert Jordan, c'est un peuple qui est un peu endurci pour le combat, etc. Je pense au Trône de Fer et à notamment cette fameuse partie qui voit mélanger les armées du Sud et du Nord. Et où en fait tu as une différence qui est clairement montrée sur le fait qu'en fait les Nordiens sont beaucoup plus résistants que ceux qui viennent du Sud. Ah, oui.
Alors, Je suis d'accord avec toi, mais sauf que là, c'est l'extrême nord et le centre du sud.
Ah merde.
C'est pas les Dorniens.
Ah oui, c'est pas les
là,
Dorniens, c'est vrai, oui. Ah,
c'est,
ouais.
C'est plus, voilà, le ventre mou, quoi.
Oui, voilà, là, c'est ça. C'est, ouais, c'est... Oui, c'est ça. C'est clairement le ventre mou. Mais ah oui, oui. Ouais, non, oui, c'est vrai que parce Dorn, que... du coup, pour le coup, c'est pas du tout laissé faire pendant plusieurs.
Ah non, c'est les seuls à avoir résisté aux Targaryens.
Ouais. Ouais, donc en fait, le désert, ça, le sable, ça endurcit,
quoi,
ouais, ça fait des muscles.
C'est des violents, quoi.
Ouais, grave. On a fait un peu le tour de tout ce qui est sable, tout ce qui est désert. Hein. Du coup, maintenant, on va parler eau. Les livres qui parlent de bateaux, de navigation, d'îles perdues, de pirates. À Calabès.
Alors, bah déjà, pour moi, ça a plus le sens dans les lectures de vacances, parce que finalement, le sable de vacances, c'est plus la mer que le sable désertique
oui.
avec des mirages et pas une goutte d'eau à l'horizon.
Ah ouais.
Donc, moi, je suis un grand fan de livres de pirates ou même juste de bateaux. En particulier en vacances. Donc, un des exemples que j'ai eu, et je me souviens très bien l'avoir lu en Corse, au bord de la mer, c'est Des Horizons Rouges Sang de Scotch Lynch, donc le deuxième tome des Gentlemen Bastards. C'est comment
Salaud
français,
gentilhomme.
Les salauds gentilhommes. Donc, bah, excellent. Voilà. Alors, tout se passe pas. Sur un bateau, mais ce qui se passe pas sur un bateau se passe dans
des îles.
Ouais, dans des îles.
C'est un peu morcelé.
Oui,
hein.
Venise, donc c'est, ouais. ça passe quand même très bien. Et voilà, quoi, on a cette ambiance maritime. Je trouve ça très agréable d'entendre le clapotis des vagues quand tu lis une lecture sur un bateau. Donc ça c'est. Un grand moment pour moi. Safran citait les aventuriers de la mer aussi, qu'elle dit. Donc je la cite dans le texte parce que ne l'ayant pas lu, j'ai pas d'avis particulier. Mais elle dit qu'on peut tout à fait le lire sans avoir lu rien d'autre de Rob.
Bref. Bah du coup, c'est une question plus générale hein, qui est peut-être presque un peu troll. Est-ce qu'on peut encore lire du Hobb maintenant ou passer un certain parcours de lecture est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit pas pour le coup vraiment très chiant à lire? Là, pour le coup, je parle vraiment pour moi.
Alors, je vais paraphraser un peu la réponse qu'a fait Safran et puis je vais rajouter un peu de mon avis. A priori, non. Donc, Safran, elle n'a lu que Les Aventuriers de la Mer et le premier tome de L'Assassin Royal. Moi, j'ai lu les 6 premiers tomes de L'Assassin Royal en français, donc le premier cycle, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais non, je pense que c'est. Je suis assez d'accord avec elle. C'est un auteur qui reste très lisible avec, quel que soit le bagage fantasy qu'on a avant. Par contre, c'est plus avec le style qu'on peut avoir un problème. Donc, je pense que ça plaît pas à tout le monde. Mais ensuite, c'est pas forcément dû au background qu'on a avant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Gilo.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec cette dernière remarque. C'est vrai que, avant tout, il me semble que c'est une question de style chez Hobb qui peut refroidir. Parce que vraiment, on est plongé justement au cœur du parcours émotionnel de son héros. Et si on adhère pas à ça, forcément, on peut vite le trouver pleurnichard ou des choses comme ça. Après, au niveau du parcours de lecteur, je pense qu'en revanche, ça ne change pas grand-chose, effectivement, et qu'on peut l'apprécier même en ayant, 15 ans de fantasy derrière soi. Là-dessus, c'est pas un souci, je pense.
Ok. À quelle baisse ?
D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, tu parles de héros. Et pour moi, alors, j'ai pas lu encore une fois Les Aventuriers de la Mer, mais pour moi, les vrais héros des Aventuriers de la Mer, finalement, ce sont les bateaux. Et je trouve que ça, c'est un truc assez intéressant, justement, dans la thématique voyage. C'est le personnage bateau, quoi. Le côté, le bateau est un peu comme on voit souvent, plus souvent en fantasy, la ville. Donc là, voilà, le lieu et le. et le personnage principal du roman, quoi, un peu comme on voit dans Elantris
Le village.
ou dans Le Village, certainement, ou dans Wasburg. C'est des personnages importants. Là, c'est pareil, à la place de la ville, on a un bateau qui va être central, un ou plusieurs. Et en plus, dans Les Aventuriers de la Mer, si j'ai bien compris, ces bateaux sont vivants, donc ils ont une âme, ils ont des,
Ouais.
ils peuvent faire des, ouais, ce sont des véritables personnages, quoi. Dans les livres quand même de pirates, je pense qu'on peut citer aussi le Déchronologue, qui est assez sympa à lire en
De
vacances.
Beauverger.
Oui, de Stéphane Beauverger. Donc déjà, c'est français, donc c'est toujours sympa de lire un peu de fantasy française de temps en temps.
De qualité.
De qualité. Et donc voilà, là, le Déchronologue, ça a vraiment le côté voyage en avant, parce que non seulement ça se passe dans les Caraïbes avec des pirates, des bateaux, etc. Mais en plus, c'est un peu l'histoire d'un voyage dans le temps. Donc on a la double dimension scénaristique du voyage. Donc
Ouais, pour le
c'est
coup,
assez
c'est
sympa.
clairement, enfin, t'as sur le fond et la forme, ce qui est hyper rare.
Donc à lire en vacances.
Oui, clairement, oui, clairement. Moi, encore une fois, hein, quand c'est juste sur un passage, c'est alors un peu comme pour le sable. Bon, après, ça dépend du style de l'auteur, mais souvent, ouais, les passages en bateau, j'ai souvent peur que ça me fasse un peu chier. Il y en a pas mal dans Téméraire, notamment dans cet insupportable deuxième tome qui m'a censé durer, qui m'a donné l'impression de durer 1000 ans, où en fait Téméraire et Laurent sont sur un bateau. Téméraire va
Tombe
Téméraire.
à l'eau.
Non mais ouais, bah oui, Téméraire va se baigner. Il y a des pages et des pages sur le fait qu'il se baigne et qu'il trouve ça génial et qu'il se repose ensuite des questions sur la vie sur le bateau. Il y a une scène, un moment un peu intense avec l'attaque d'un serpent de mer ou un truc comme ça, mais c'est tout. Vraiment insupportable deuxième tome, comme les autres, hein, de toute façon, j'ai envie de dire. Mais ce passage était particulièrement éprouvant pour moi. Et du coup, enfin, moi, enfin, voilà, pour moi, on me parle de passage en bateau, c'est ça que ça m'évoque, ça, et la mort de DiCaprio. Spoiler alerte.
Ouais, mais là il fait froid, alors c'est différent.
Ouais, c'est pas pareil, c'est vrai. Et puis, mais bon, il partait quand même. Enfin, c'était quand même un voyage. Gilo.
Oui, sinon je pense que pour l'ambiance un peu Caraïbe, il faudrait citer Sur des mers plus ignorées de Tim Powers, qui est quand même un roman qui a notamment inspiré en partie les films Pirates des Caraïbes, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est pas une adaptation directe, enfin si, le 4 je crois. Le quatrième film s'en inspire plus
Le
directement.
plus mauvais?
Mais, pardon?
Le plus mauvais? Avec Sirena?
Je l'ai pas vu le 4 en
Ah, tu
fait,
l'as
donc
pas vu? Franchement,
je ne pourrais pas te dire.
il y a...
Mais là, pour le coup, on est vraiment dans cette ambiance Caraïbes, Rome, magie noire, etc. Donc, je pense que c'est un indispensable, d'ailleurs, d'autant que le livre est vraiment pas mal du tout pour la plage.
D'ailleurs, je pense que là, j'ai eu un flash, une illumination. On n'a pas du tout parlé de ça au niveau des airs, mais on a les zinzins d'Abel Oued de Terry Pratchett, non? Qui se
D'Olivewed
passe
ou.
d'Olivewed,
Effectivement, ouais.
Moi, j'ai juste vu la couverture, mais.
Après, thématiquement, c'est pas vraiment le sujet, non? C'était le cinéma, si je me souviens bien.
Ah oui, t'as raison.
Ok.
Ça, c'est fait.
Fin de l'aparté. Oui, après, c'est vrai que concrètement, sur les pirates, il n'y a pas. J'ai pas référence de grand-chose, hein. Hormis effectivement Red Seas Under Red Skies, enfin des horizons rougeants de Scott Lynch qu'on a cité précédemment.
Alors sinon,
Oui.
point de vue BD, on en a quand même un certain nombre
Ouais.
de pirates. Alors bah forcément. Il suffit de voir mon avatar sur le forum pour savoir ce que je vais citer. Donc les deux caps et deux crocs se
Ouais.
passent en grande partie avec des pirates
Oui.
sur la mer ou dans le ciel. Bon, est-ce que la BD c'est la chose la plus pratique à emporter en vacances? C'est pas sûr, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de trucs de trucs qui sont notables. Donc les pirates sont quand même assez présents en bande dessinée, je trouve.
Mm-hmm.
On a dans les bandes dessinées fantasy de pirates, ou plus ou moins fantasy, on a Long John Silver aussi, qui est comme ça. Bon, alors dans une ambiance un peu moins sympathique, ça fait moins rêver, ça fait moins vacances. Hein.
Ouais.
Mais on a quand même une bande dessinée de qualité.
Oui, Gilo.
Il y a les Astérix.
Merci. Merci pour cette référence.
Voilà. Ouais, alors, soit dit en passant, les Astérix sont pas mal pour le voyage, en effet. Et,
oui.
Que ce soit l'Odyssée d'Astérix, Astérix en Corse, que personnellement, je relis tous les ans.
Donc on a dérivé du coup sur la partie voyage.
Il y a des pirates, c'est de la potion magique, je suis désolé.
C'est complètement de la fantasy.
Ok, très bien. Moi, j'ai en mémoire encore le voyage d'Astérix. C'est l'un des derniers, donc...
Ah, mais enfin, c'est un faux, ça, c'est une BD, non?
Oui, c'est la BD... Non, où il va en Atlantide, parce que Obélix est redevenu petit.
Ah oui, je l'ai pas lu.
Mais c'est pas sur un scénario de Goscinny. Goscinny étant décédé bien avant. Moi, c'est principalement...
Heureusement pour lui.
Bah, on aurait peut-être eu des meilleurs Astérix, en fait. Bref.
C'est vrai, mais...
Bref. Donc, pour revenir, oui, sur les livres de voyage, qui nous font un petit peu voyager, moi, je pensais à... Le premier qui me vient, c'est vraiment Narnia. Il y a vraiment ce côté, on est en vacances, on va chez Tata Tonton. Bon, même si c'est la guerre, donc c'est un petit peu... c'est grossièrement résumé, mais c'est un peu ça. Et du coup, on va dans un autre monde en passant derrière l'armoire. Chez Tata et Tonton. On revient ensuite pour aller à l'école. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là dans Narnia. Même si dans le premier tome, il reste quand même hyper longtemps.
Alors ouais, en effet, en Narnia, on a ce côté vacances. On a aussi le côté d'ailleurs bateau dans le voyageur
l'Odyssée
sur des...
du passeur de roi.
Pardon ? Voilà, l'Odyssée du
passeur de roi.
Donc en effet, ça rentre complètement, je pense, dans le cadre vacances, quoi. Ensuite, pour le premier tome, par exemple, on n'est pas vraiment dans le désert ou dans le désert de glace, quoi, plutôt. Sinon, il y a le livre de Tad Williams, La ferme des dragons. Donc c'est un livre jeunesse où c'est pareil, c'est l'histoire d'enfants qui vont en vacances dans une ferme. Et cette ferme, comme son nom l'indique, n'est pas une ferme complètement classique. Il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de choses comme ça. C'est juste des animaux un peu plus gros. Donc.
Ouais, mais je ne l'ai pas lu, c'est trop mal traduit.
Ouais, c'est ça. c'est le principal problème.
Ah, c'était une blague, hein, bien entendu.
Sinon, ouais, pour des... Finalement, la fantasy est pas... Mis à part quelques fantasy... urbaine, finalement, il n'y a pas beaucoup de vacances. On imagine assez mal le roi dire bon, bah là je suis en RTT, les mecs, la guerre, on va se la faire la semaine prochaine, hein, si ça vous dérange pas.
Oui, les vacances, c'est toujours s'il y en a dans les récits, c'est toujours une phase transitoire. Pour le but étant ensuite de reprendre un petit peu que le récit reprenne un peu le dessus. Par contre, concernant... Oui, à Calabès ?
Par contre, le côté voyage, là, on peut en avoir d'autres.
Oui, clair, là, oui.
Je pense directement à... Et d'ailleurs, finalement, ça retrouve les vacances. La huitième couleur de Terry Pratchett, où il y a deux fleurs qui est en vacances et qui vient visiter le...
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et sauf qu'il tombe sur le mauvais guide, puisque Rincevent n'est pas un guide complètement compétent. D'ailleurs, il n'est pas compétent pour grand-chose.
Il n'est pas compétent pour grand-chose.
Mais voilà, il y a toute cette voyage, cette exploration du disque monde fait d'abord par le groupe et puis ensuite de façon plus restreinte par Rincevent.
Ouais.
Et il y a quand même cette notion de voyage.
Après, les voyages, c'est clairement quelque chose qui est... Mis à part je parle pas des vacances, je parle vraiment du voyage. C'est vraiment quelque chose que tu retrouves en fantasy un peu épique. En fantasy, en high fantasy classique également, la belle Gariade, ils n'arrêtent pas de voyager tout le temps. T'as une exploration du monde qui permet un renouvellement du récit. Tu découvres des différentes peuplades, différentes cultures. Ça rythme en fait. En fait, c'est souvent une. Pour moi, je trouve que c'est souvent une excuse un petit peu facile pour chercher à rythmer son récit de manière un peu simple. Bon, même si certains. Donc ça, après, ça dépend du talent de l'auteur. Goodkind fait un petit peu voyager Richard et Callan, mais c'est pas parce qu'il les fait voyager que ça les rend. Ça rend le récit intéressant. Gilo, tu confirmeras. Hein. Enfin,
bien sûr.
Ou tu infirmeras d'ailleurs. Mais ouais, le oui, Akabes.
Ensuite, je pense qu'il faut quoi. Il faut distinguer le voyage que quoi. Ce que j'appelle le voyage, c'est-à-dire aller à un endroit pour le trajet à la quête quoi, où on va à un endroit pour atteindre un but qui va nous envoyer à un autre endroit pour atteindre un nouveau but, etc. qu'on voit
oui,
plus
ça,
dans
ouais.
la fantasy.
Ouais.
Finalement, le voyage pour le voyage, il y en a assez peu.
Non, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est...
Donc c'est quand même quelque chose qui existe. Donc j'ai cité De Fleur, mais on peut certainement en trouver d'autres. J'en avais d'autres en tête.
Bah moi ça m'évoque aussi beaucoup de jeux vidéo hein. Globalement les RPG utilisent énormément le voyage pour tout simplement pour faire avancer le récit. Les plus classiques hein, Final Fantasy, c'est toujours du voyage. Si t'as pas de voyage, tu n'as pas d'histoire, tu n'as rien du tout. Tu peux pas rester sur place en fait dans ce type de récit.
Oui. Mais là encore, c'est peut-être plus de la quête que du voyage.
Ouais, pour le coup, oui, bah les deux sont intrinsèquement liés, hein, ça c'est clair. Moi je pense à je suis en train de jouer à Bravely Second la suite de Bravely Default sur Nintendo 3DS c'est tout le temps la quête, le voyage, c'est dès le début t'as ça, le personnage part en quête tout de suite
part en quête ou en
voyage,
part en quête.
On l'avait dit, hein, y a pas de filles, donc on se lâche, hein, blague de beauf, on a les bières
de haute qualité quoi.
Ouais, exactement. Le foot à côté.
On a sorti New Look. Hein.
Ah ouais, c'est sûr.
mais sinon, je pense par exemple à La Peur du Sage où finalement Kvoss va se retrouver à être obligé de partir de l'université. Et il ne sait pas spécialement qu'est-ce qu'il va avoir à faire pendant ce temps-là. Du coup, il entreprend un voyage. Là, il n'y a pas vraiment de but, c'est juste histoire de passer le temps. Donc il va quand même essayer d'en découvrir plus sur sa quête personnelle, mais...
My life as a hobo.
Ouais, c'est un peu
ouais,
ça.
Ouais.
Il y a quand même cette notion de voyage et d'opportunité. Il va à un endroit ou à un
ouais,
autre.
Ouais.
On a un peu le même système dans Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski où Don Benvenuto va être obligé de quitter sa ville et du coup il y a tout son trajet jusqu'à une autre ville finalement où il n'y a pas du tout de quête dedans, c'est l'intérêt, c'est le trajet, le voyage
ouais.
sans but particulier autre que de toute façon on peut pas rester là où on est, donc il faut bouger.
Ok. Saffron disait qu'elle avait fini le livre du guet de Terry Pratchett, Coup de tabac, où Vimer était contraint et forcé par sa tendre épouse de prendre des vacances à la campagne. J'ai envie de dire, en fait, concrètement, le disque monde, dans le disque monde, Pratchett a fait quand même pas mal de... a brassé quand même pas mal de choses.
De thématiques,
un
ouais.
peu comme ce podcast. Gilo, tu avais une remarque ?
Oui, qui rejoint un peu ce que vous avez déjà développé. C'est notamment la définition même du voyage qui peut prendre à... différents aspects. Et c'est vrai que entre ce que nous on entend par voyage dans nos sociétés et forcément ce que vivent les personnages dans les romans, il y a quand même un certain décalage en général, notamment ce qu'on disait un peu plus tôt.
Après donc avoir abordé le désert, la mer, le voyage, la plongée sous-marine, ça, oui, c'est une séquence qui a été coupée au montage. Venons-en maintenant du coup à la lecture elle-même. Aka, t'as des choses à nous dire?
Oui, en fait, moi, justement, pourquoi est-ce qu'on parle de ce type de lecture avec que lire en vacances? C'est que pour moi, en tout cas, ça a vraiment un impact fort de lire quelque chose en rapport avec mon environnement, quoi. L'environnement dans lequel je suis a un impact fort sur le fait que j'ai envie de lire ce livre ou de pas le lire. Donc, typiquement, en vacances, quand il fait chaud, j'aurais pas envie de lire Les Royaumes du Nord. Par contre, voilà, je vais être complètement réceptif à lire Des Horizons Rouges 100. Je sais que je peux vous citer les trois livres des derniers étés que j'ai lus. Donc, il y avait Les Horizons Rouges 100, il y avait Le Déchronologue, il y a eu Moby Dick. Alors, c'est pas tout à fait le même registre, mais on reste dans cette ambiance-là. Réciproquement, c'est en hiver sous la pluie que j'ai lu Jonathan Strange and Mr. Norrell, qui pour moi, voilà, où il faut pour l'apprécier complètement avoir une couverture de tweed, manger des shortbread et boire du thé. Et s'il pleut pas dehors, c'est un peu triste. Là, voilà, entendre le clapotis des vagues. En lisant un livre de pirate qui se passe sur un bateau, bah tout de suite ça te permet de rentrer plus dans l'ambiance. Un livre où on te dit qu'ils ont chaud, qu'ils ont soif, etc. Bah là tu profites particulièrement de ta petite margarita au soleil dans un transat.
Bah, moi, je t'avouerais que l'ambiance, ça a jamais eu vraiment d'influence sur mes lectures. Bah, tu citais les Royaumes du Nord que tu as lu en hiver. Moi, je l'ai lu en plein été, entre juin et juillet, quoi. Juin et août? Juin et juillet. Bon, bref, c'était ça. Ça remonte, c'était en 2002. Mais voilà, pour moi, généralement, ça influence assez peu. C'est pareil, hein, les tomes de certains tomes du Malazan qui se passent à des endroits où il fait chaud, je les ai lus en plein hiver. Moi, en fait, quand je m'immerge, ça me dérange. C'est pas ça qui me dérange. Gilo, tu voulais compléter?
Oui, bah c'est vrai que je suis un peu en accord avec la méthode Actor Studio de Aka. Parce que moi, par exemple, quand j'avais lu Le Dernier Magicien de Robin Hobb, enfin Megan Holm, où on suit... Pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, en fait, dans ce roman, on suit un sans-abri, donc moi, je suis allé m'installer dans la rue pour...
Okay. Et juste pour savoir, du coup, Gilo, qu'est-ce que t'as
Je
fait
suis
pour
désolé, j'ai voulu rester sérieux jusqu'à la fin de ma vanne, mais j'ai craqué avant.
Et du coup, qu'est-ce que t'as
Mais
fait
oui,
quand
non,
t'as
mais pour
lu?
être plus sérieux, c'est vrai que moi je suis un peu entre les deux. J'aime bien me créer une ambiance de lecture. Après, c'est vrai que j'aurais pas de blocage non plus, même si le mot est sans doute trop fort, bien sûr, mais je veux dire, un livre qui se passe en hiver, je peux potentiellement le lire même en été. Je pense pas que ça me dérange plus que ça, mais c'est vrai que ça peut ajouter quelque chose de se fondre dans l'ambiance du roman, c'est sûr.
Alors bien évidemment, hein, moi je suis pas non plus complètement psychorigide, hein, sinon je lirais que des bouquins qui se passent dans le métro.
Pas mal celle-là.
Mais voilà, je trouve que ça apporte quelque chose, et en particulier pour les livres de voyage ou d'ambiance comme ça.
Gilo, tu voulais dire?
Oui, je voulais aussi ajouter qu'en fait, je trouve qu'on peut distinguer deux attitudes lors des périodes de vacances. Quand on est lecteur, c'est soit la lecture détente, juste pour se changer les idées, puis oublier un peu les tracas du quotidien, comme on dit. Donc vraiment pour couper net avec les périodes de travail, ça. Et puis soit au contraire, c'est aussi parfois l'occasion de se frotter à des lectures un peu plus exigeantes ou ambitieuses. Bah tout simplement justement parce qu'on en a le temps ou le courage entre guillemets. Donc, je trouve que bon, ça marche évidemment pour tous les styles littéraires et pas que les lectures fantasy, mais je trouve qu'on peut dissocier les deux approches.
Donc, guerre épaisse, c'est le moment.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et en particulier, moi, je suis assez lecture ambitieuse en vacances. Alors, j'y reviendrai plus tard aussi, mais moi, j'aime bien finir ce que je lis pendant les vacances. Donc, typiquement, j'essaye généralement de lire au moins un classique de la littérature française pour parfaire ma culture par an. Et c'est quelque chose que je peux faire en vacances parce que j'ai plus le temps, je peux plus me poser sur le livre et j'ai moins justement besoin de ce côté évasion, puisque je suis déjà en vacances, donc je suis déjà un peu évadé, que me fournit la littérature fantasy. Et réciproquement, je sais que les seules fois où j'ai réussi à lire de la vulgarisation scientifique, c'était en vacances, parce que déjà, si je travaille et que je fais de la science toute la journée, j'ai pas du tout envie de lire de la vulgarisation en plus à côté.
Bah, tu vois, moi, vu que je suis très détendu en vacances, j'en profite pour lire des livres vraiment mauvais. Comme ça, après, je peux en parler et les détruire. Donc, c'est vraiment pour moi le bon moment, tu vois, pour lire des livres nuls. Good kind, c'est les vacances. Et il faut pas chercher. Sinon, vous allez vous énerver sur tout le monde, en plus.
T'es vraiment un troll, toi, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça s'entretient. Et que penser des one-shots, les sagas? Du coup, vous êtes plutôt l'un ou l'autre. Parce que les one-shots, on s'immerge à fond dedans. Quand on a fini, c'est la fin des vacances. Donc, on peut repartir sur autre chose. Ou alors, est-ce que on peut approfondir un peu les sagas vu le temps qu'on a? Ça dépend du nombre de jours qu'on pose, hein, en même temps. Hein. On n'en a pas parlé de ça.
C'est parce qu'on est tous au collège encore, donc c'est
C'est
bon.
ça. Donc, nous, on a toutes les grandes vacances. On a 2 mois. Donc, toi, Aka?
Ben moi, comme je le disais, j'aime bien finir ce que je lis en vacances, donc je suis très one shot. Ouais, moi j'aime bien les coups d'un soir en vacances.
Voilà, c'est dit.
Tada, papa. Il y a du level ce coup-ci. Hein.
Ah oui, aujourd'hui, oui.
Voilà, donc ce côté, on commence un livre, on le finit dans les vacances, on a pu s'immerger à fond dedans sans avoir trop de coupures. J'aime bien, de toute façon, une grande saga, j'aurais pas le temps de la finir juste pendant les vacances. Et en plus, ça revient un petit peu, quoi, ça rejoint ce que je disais auparavant. J'aime bien pouvoir m'immerger dans le, quoi, en vacances. J'aime bien avoir l'ambiance qui va avec autour de moi. Et du coup, c'est quelque chose que je peux avoir en lisant un one shot, parce que je peux choisir mon one shot et lire ce livre à ce moment-là. Alors que dans une grande saga, bah, je vais lire le tome auquel j'en suis. Je vais pas sauter un tome au milieu pour aller lire celui qui va se passer à la mer ou dans le désert, quoi.
Ok. Et du coup, Gilo?
Ouais, du coup, je pense que, enfin, je pense, tout comme Safran, j'ai une subite inspiration, je pense qu'on est connecté là-dessus. Du coup, l'idéal, ce serait peut-être de proposer des one-shots en mode pavé. Comme ça, tu as le meilleur des deux. C'est vrai que ça peut être l'occasion de citer une fois de plus Kay, qui fait quand même, utilise souvent ce schéma, justement, des romans uniques, mais quand même assez longs.
Ça me serait pas venu à
Donc,
l'esprit.
Oui, vas-y.
Oui, non, mais en tout cas, Safran disait de ne pas avoir de préférence, et j'avoue que moi non plus, je fais pas forcément beaucoup de distinctions, à part peut-être, bah, on en reparlera assez vite sûrement, mais peut-être la BD et les comics, où je trouve que bah, ça demande parfois un peu moins d'implication, parfois, hein, bien sûr, et bah, du coup, ça permet de changer d'ambiance facilement, parce qu'un album de 56 pages, en général, se lit, en tout cas pour la BD franco-belge, se lit quand même plus facile que même ne serait-ce qu'un livre de 300, donc je trouve qu'on peut vite vite changer d'ambiance et de cadre.
Oui, c'est sûr. Bah, pour parler de moi personnellement, en ce moment, je profite de mes vacances pour lire La Tour Sombre, mais à raison pratiquement d'un tome chaque année. Et ça me permet de digérer, entre guillemets, un peu les derniers tomes que j'ai trouvé un peu longuets, là, surtout le quatrième ou cinquième. Bah, celui avec l'histoire d'amour chiante, en fait, entre Roland et Suzanne. Bref, entre Roland et une fille. Et. et que j'ai trouvé vraiment vraiment long et relativement chiant. Donc ouais, pour le coup, enfin voilà, ça c'est pour moi personnellement.
Pour revenir sur la BD, moi c'est quelque chose que j'aime bien lire des BD en vacances. C'est en effet un côté un peu reposant, un peu voilà. Là on prend le temps de bien regarder les images. De toute façon, c'est vrai que dans le métro lire une BD c'est quand même super galère. Par contre, il y a quelque chose qui est contraignant, c'est que une BD tu la lis vite, donc il faut en prendre beaucoup. C'est pas complètement propice au voyage quoi.
Les mangas.
Bah même au bout du 56e tome de manga à emporter, t'as plus beaucoup de place dans ton sac à dos. Quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, c'est une bonne transition pour pouvoir parler du livre numérique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous prenez du coup votre liseuse en vacances ? À Calabès ?
Alors oui, moi complètement. Je trouve que c'est un des gros intérêts de la liseuse, c'est de pouvoir l'emporter partout. Et de se balader, bah voilà, on a 200 livres dans notre bibliothèque, dans notre liseuse, ça pèse toujours les 80 grammes, alors que si tu devais emporter toute ta bibliothèque dans ton sac à dos, c'est quand même un peu plus pénible. Ça permet aussi, finalement, donc je reviens encore une fois sur les livres qu'on a envie de lire et à quel moment, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'emporter des livres en vacances, plusieurs, d'en lire un, et puis finalement, celui qui est après, j'ai pas envie de le lire maintenant, celui que je viens de lire, c'était un d'une saga, bah, j'ai envie de continuer de lire tout de suite le tome d'après, alors que je l'ai pas emporté, puisque je pensais lire un one-shot derrière, ou des choses comme ça, et la liseuse, ça permet quand même de choisir, quoi, ça permet beaucoup plus de flexibilité là-dessus, d'avoir toujours les livres qu'il te faut. Et puis au pire, si t'as pas les livres qu'il te faut, il te suffit d'une connexion internet pour les avoir, quoi.
C'est ça. Moi, je mettrais un petit bémol là-dessus, sur le numérique, parce qu'à mon sens, ça trouve justement ses limites pendant des vacances d'été. Pour moi, une tablette, c'est impossible à emmener sur une plage à cause du sable. Et globalement, je la sors pas en cas de chaleur de peur justement qu'elle s'abîme. Et comme j'aime... Non, mais c'est vrai. Et comme j'aime pas être à l'ombre parce que je suis dans le fond de la même race que Superman, et qu'en conséquence, moi, j'ai besoin de soleil pour recharger mes super pouvoirs et synthétiser à fond la vitamine D, bah c'est précisément durant ce cas précis que le livre papier, pour moi, ça, il l'emporte parce qu'il craint ni le sable ni la chaleur.
Alors, je crois qu'on a perdu Gilo qui est en train de rouler par terre tellement il rigole.
Non, désolé, c'est à cause de je la sors pas en catch.
Je pense qu'il parlait de chaleur extérieure, de température extérieure et pas de
ah, c'est le pod, geek c'est, du temps chaleur. C'est le podcast PMU hein, cet après-midi.
Ah bah ça, fallait pas nous laisser seul.
Ah bah non, ça c'est clair. Là,
c'est votre faute, mesdames.
On est déchaînés. Qu'en disait Safran ?
Alors, ah oui, c'est vrai, Safran, pouf. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait que, elle l'emporte sans problème en vacances. Et d'ailleurs, je vais m'approprier complètement sa réponse.
Ouais.
Parce que pareil, quoi, c'est mon Kindle, pour pas nommer la marque. C'est celui bas de gamme qui coûte le prix de 5 livres. Donc essentiellement, au pire, s'il est un petit peu chaud, c'est pas si grave que ça. Et non, pour moi, c'est fait pour être transporté, c'est fait pour être emporté. Et en l'occurrence, sur la plage, finalement, il n'y a pas tellement d'ouverture plus que dans un téléphone ou autre chose. Je sais pas si t'emmènes ton téléphone à la plage.
Non.
Bon, moi non plus, j'ai pas de scrupule à mettre ma liseuse dans mon sac. Hein. Par contre, oui, il est quand même dans un.
Oui, il est quand même protégé.
Une enveloppe plastique
plastique. Oui.
Mais c'est l'avantage d'avoir aussi une liseuse non tactile, c'est oui. Que t'as pas besoin d'avoir quelque chose pour toucher l'écran, quoi. T'as pas besoin de toucher l'écran avec tes doigts.
Ah oui, pas mal.
Malin.
Gilo, t'avais un avis ?
Oui, moi aussi, en fait, pour être un peu sérieux deux secondes, c'est vrai que comme ma tablette n'est pas tactile et n'est pas forcément, surtout vu qu'elle a quelques années très haut de gamme. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un objet comme un autre, et je me sens pas spécialement... Bon, maniaque, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, évidemment que j'aimerais pas que le sable corrompe ses circuits, mais on va dire que pour moi, c'est vraiment un objet que je peux emmener justement en vacances sans souci, et c'est vrai que c'est là aussi où on retrouve cet avantage. Faut avouer que même le plus gros avantage du numérique, de toute façon, c'est d'avoir toute sa bibliothèque avec soi.
Vous avez pas peur de la
là,
chaleur
ça, si...
Enfin, je veux dire, c'est...
Non, on lit nos Kindle même en chaleur.
D'accord, ok. Ok. Ouh là là, on s'arrête plus. En parlant de chaleur, qui dit chaleur dit tube de l'été, hein.
Wouhou,
Shakira. Donc, quels sont les livres à lire cet été? Aucun parle de Shakira d'ailleurs, dommage.
Ouais, j'ai jamais essayé de lire Shakira, mais je pourrais essayer un jour peut-être.
Oui, c'est, à mon avis, c'est très facile à lire. Donc, toi, Aka.
Bah, plus sérieusement, donc moi j'aime bien lire des one-shots, j'aime bien lire des livres où l'ambiance est transparente, quoi, et correspond à ce que à là où je suis. Donc bah ça tombe bien parce que là très récemment est sorti Children of Earth and Sky de Guy Gabriel Kay, donc qui est un auteur que j'aime pas beaucoup, mais bon là je vais faire un effort, je pense. Donc c'est un one shot, ça se déroule au bord de la Méditerranée, donc entre Séressa, qui est un équivalent de Venise, et Acharias, qui est l'ex-Sarance, donc qui serait un équivalent d'Istanbul maintenant, sous les couleurs de guerre de religion, comme souvent chez Guy Gabriel Kay. Pour moi c'est clairement un must pour cet été, donc on a tous les bons ingrédients. Guy Gabriel Kay, c'est toujours sympa, ça te transporte toujours un petit peu, donc être transporté entre Venise et Istanbul quand je bosserai cet été, ce sera parfait.
D'accord. Quant à Saffron, bon là pour le coup, elle parle aussi pour les lecteurs VO. Elle recommande deux nouveautés, donc Stiletto de Daniel O'Malley, la suite de The Rook. Vu que c'est absolument inlâchable, il vaut mieux avoir quelques heures de temps libre. En continu, quitte à se coucher très très tard, on s'en fiche, on fera la grasse matinée ou la sieste, ça fera.
On voit qu'elle a pas d'enfant, elle.
et dans la catégorie nouveauté, et en plus ça se passe dans le désert, alors ça a été double, ça a doublement sa place ici. Si vous êtes à jour dans les mémoires de Lady Trent de Marie Brennan, jetez-vous sur le quatrième tome, dont le premier a été nominé au prix Elbakin.net, hein, une histoire naturelle des dragons. Donc,
effectivement.
Le quatrième, The Labyrinth of Drakes, où notre naturaliste des dragons se retrouve cette fois dans ce qui ressemble à un Sahara. Tiens, c'est thématique, vraiment, c'est bien fait. Pour étudier les habitudes de reproduction des dragons des sables. Ah ouais, c'est encore plus intéressant. Si le soleil est au rendez-vous du coup pendant vos vacances, vous serez dans l'ambiance, et si l'apocalypse climatique continue, vous aurez au moins l'impression d'être en été le temps de votre lecture. Gilo, t'as des choses à nous dire?
Oui, souvent, je dénonce. Et donc, je voulais trouver quelque chose, en fait, qui soit, même si les deux approches me vont, qui soit pas trop prise de tête et fun, parce que des deux attitudes soulignées précédemment, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à pencher vers celle-ci. Et du coup, c'est vrai que, Geeks, tu me parlais de Six of Crows.
Six of Crows, ouais.
Que j'ai lu lors de,
en VF, hein,
récemment, qui... et qui est d'ailleurs nommé au prix
Elbakin.net
cette année, en jeunesse, mais honnêtement ça peut vraiment être lu par tout le monde. Alors pour le coup c'est pas du tout, c'est vraiment pour le côté fun et pas du tout on va dire vacances, sable, plage, Caraïbes. Mm-hmm. Mais si vous voulez quelque chose, notamment c'est l'intrigue tourne autour d'un casse à organiser. Avec un petit côté Locklamora,
Ocean Eleven,
tout ce qui est dialogue. Mm-hmm. Et des personnages vraiment bien foutus, pas forcément les plus originaux qui soient, mais relativement attachants. Et un bouquin qui, mise beaucoup sur le rythme, donc faut avouer que de ce côté-là, c'est assez prenant. Et tout en restant, comme je disais, ouais, vraiment un gros plaisir de lecture. Et puis autrement, je l'ai cité un peu plus tôt, c'était Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. Donc là, pour le coup, pour l'ambiance Rome et Caraïbes, on va dire. Donc ça serait mes deux petites recommandations du moment du moment ou pas d'ailleurs, parce que Sur des mers plus ignorées a bien 3-4 ans, je pense, en VF. Mais en tout cas, je recommande les deux pour la plage cette année.
Ok, bah moi je vais vous recommander une BD qui est mon petit coup de cœur de ces dernières semaines. C'est The Autumn Lands. Le tome 1 s'appelle De Griffes et de Crocs. C'est un récit, une bonne lecture des termes, hein, parce que ça se passe dans un univers complètement fantasy avec des êtres anthropomorphes, un peu à la Black Sad.
Alors, De Griffes et de Crocs, des êtres anthropomorphes, t'es sûr que t'es
Ouais,
pas
ça va te
trompé
parler.
de
Non, non, mais
titre?
je pense que ça va te parler. Donc, en fait, on est dans une histoire avec des habitants qui vivent dans des cités volantes, qui commercent avec les habitants qui vivent sur Terre, où il y a une espèce de hiérarchie qui s'est instaurée entre eux. Les habitants des cités volantes ont tendance à appeler les buffles, tout ça, ceux qui vivent en bas, les moindres. Ça donne une petite idée. Ils ont toute une mythologie, en fait, une religion qui tourne autour d'un messie dont ils ne savent pas à quoi il ressemblait. Sachant qu'on a tous les animaux rassemblés, hein, on a des chiens, des hiboux, des lions, des aigles, etc. Et que on ne sait pas à quoi ressemblait ce fameux messie qui a sauvé les peuples. Et en fait, du coup, ils tentent de ramener le messie. Tente de l'invoquer. Sauf que cette invocation tourne court et la cité volante se fracasse au sol, donc à la merci des peuplades de la Terre qui tentent du coup de les attaquer. Et au moment en fait où ils sont attaqués, ils se rendent compte que l'invocation a quand même bien réussi. Ils ont ramené le Messie. Je vous en dis pas plus. C'est vraiment hyper intéressant. Le scénario a vraiment l'air fouillé. Ça a l'air vraiment d'être assez transgenre en plus, assez profond. Le tome 1, moi, m'a vraiment, vraiment emballé. C'est un coup de cœur que j'ai cette année que je mettrai, à mon avis, à coup sûr mon top 10 de fin d'année 2016. En plus, la BD est vraiment pas chère. Elle est à 10 euros pour le tome 1 chez Vertigo. Elle est trouvable facilement. Voilà.
C'est terminé comme BD ou pas?
Non, c'est en cours.
Et tu sais combien il y aura de
Pour l'instant, il y a un
tomes ou...
tome. Le 2, je suis pas sûr que le 2 est encore sorti aux États-Unis. Mais ça vaut vraiment le coup. Après, faut pas t'attendre à de l'humour comme De Cap et De Croc. Il y en a beaucoup moins. La BD a un aspect bien plus sérieux. Il y a très très peu d'humour. Mais c'est, on va chercher sur autre chose, sur une certaine ambiance, une certaine. Tout ça. Aka.
Bah ouais, pour faire une petite aparté, on a vu les livres, les BD, on a parlé très brièvement des jeux vidéo, mais il y a aussi les jeux de société, puisque finalement en vacances, on peut partir en vacances à plusieurs et avoir envie de profiter
Tout à fait.
à plusieurs. Donc il y a quand même pas mal de jeux de vidéo, des jeux de société qui se passent soit dans des univers... de pirates ou des îles. Donc si on enlève le côté fantasy, on a Macabana ou Caribbean ou des choses comme ça. Bon, là ça rentre pas complètement dans le sujet de notre podcast, mais en gardant le côté fantasy, on a un jeu qui est sorti assez récemment, qui était publié grâce à Kickstarter, qui s'appelle Rum and Bones. Donc, il y a un jeu avec des figurines et c'est un peu du pirate des Caraïbes, hein. Il y a des morts-vivants, il y a des pirates, ça se passe sur des bateaux, il y a du rhum, il y a des eaux, ça s'appelle Rum and Bones.
C'est parlant.
Voilà, complètement. Donc voilà, bah, ça, je pense que ça peut être une des. Bon. Peut-être pas à la portée de tout le monde, c'est du très gros jeu qui coûte très cher d'ailleurs, je crois, avec pas mal de figurines. Donc
un matériel, vacances, alors.
Un matériel très beau pour des vacances, mais des vacances pas voyage, quoi.
D'accord, oui. Vacances à la maison. Autre chose?
Oui, ben puisqu'on a mentionné aussi ça, donc effectivement brièvement les jeux vidéo.
Oui.
Moi, j'aurais bien mentionné à ce sujet les Monkey Island. Ah, c'est pas récent du tout, mais si on cherche une ambiance un peu, ben on va dire encore une fois
Pirate.
plage, mer, Caraïbes et puis un peu
Voyage,
de
pirate.
magie malgré tout. Ben, je pense que Merwin serait d'accord avec moi pour recommander cette série de jeux. Donc on peut les trouver sur à peu près toutes les plateformes maintenant. Il y a eu un remake il y a 2-3 ans. Donc on peut switcher entre graphiquement entre la version d'origine et la version retravaillée. Et puis je pense qu'honnêtement on les trouve vraiment pas cher non plus. Ce sont des jeux d'aventure point and click assez farfelus on va dire, mais avec bah, bourré d'humour et qui peuvent faire passer quelques heures sympathique en vacances justement.
Très bien.
Juste pour les gros best-sellers qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé, qui parlent de voyages, de pirates, etc. Donc on n'a pas du tout évoqué One Piece, mais
Exact.
c'est encore en cours. Il y a au moins, je sais pas, il y a au moins 40 tomes là maintenant, je pense,
Plutôt
voire plus.
80.
Ouais, c'est ça. Ouais, on est plus proche
Ah,
de
c'est vrai,
ça.
c'est monté
Hein.
tant que
Ah
ça? Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ah là là, qu'est-ce que je deviens vieux.
oui.
Mais voilà, je pense que c'est quand même un incontournable de la bande dessinée de pirates, bien que ce soit pas du pirate comme on a l'habitude de le voir. Ça reste quand
Ouais.
même
Non, effectivement, je pense que ça aurait été vraiment dommage de ne pas citer. En plus, là, vous en avez objectivement pour plusieurs grandes vacances. Donc,
Vous en avez pour
si vous
30 ans,
entamez la série
30 ans de
maintenant,
grandes vacances.
ça devrait vous occuper jusqu'en 2025, je pense. Donc,
Si
ça
vous
peut
lisez
être une bonne
vite.
option aussi.
Ouais, c'est sûr. Belle, ce sera donc le mot de la fin, l'œuvre de la fin également. Merci à Calabès. Merci, Gilosen. On se retrouve à la rentrée pour le podcast numéro 60. Et d'ici là, on vous souhaite d'excellentes vacances. Portez-vous bien, lisez, reposez-vous, détendez-vous. Et à bientôt. Salut,
À
salut.
bientôt, salut.
À bientôt, bonnes vacances.